Bonjour à tous et bienvenue dans la prépa, le podcast où on parle de préparation d'objectifs sportifs, de développement personnel et de mieux-être. Moi c'est Flo, on est à l'épisode 23, début du bloc 2 pour cette prépa pour la Wildstruppel 70 km. Alors on va pas tergiverser, on se met en action directement. Je veux voir tout le monde bouger son body. Vous allez à la salle, vous allez courir, peu importe, vous faites ce que vous voulez, mais surtout vous, vous bougez le cul et.
On démarre!
Et donc voilà, on va commencer par le petit débrief. Alors, il y a eu une petite semaine un peu difficile. On a déjà discuté la semaine passée des petites douleurs de hanche, etc. Et suite à ça, j'ai bien entamé un petit protocole, étirement, renforcement, tout ça, tout ça. Et en fait, j'ai pu reprendre une semaine avec du volume très rapidement, sans douleur, sans avoir de gêne ou quelque chose qui m'empêche de vraiment courir. Alors, c'est pas 100% fixe, mais clairement, voilà, ce que je fais, ça fonctionne. Donc, je peux dire sincèrement que c'était pas une blessure, mais que c'était vraiment un petit signal en mode, hey, fais attention, ça c'est pas bon, ce que tu fais particulièrement. En fait, j'ai remarqué que quand je marchais dans des côtes de 15-20%, j'avais tendance à mettre mon pied trop devant mon centre de gravité. Et donc, en fait, j'étendais trop au niveau de ma hanche, de mon TFL, etc. Et c'est de là que venait la douleur. Donc, j'ai simplement corrigé ça pendant les entraînements. Et j'ai fait voilà, le truc classique, étirement, renforcement, des petits exercices de hanche, des petits exercices pour le TFL. Donc, tout va bien. Alors, pour la semaine en elle-même, eh ben, en fait, on a vraiment bien, bien, bien taffé. Alors, le lundi, comme je vous l'avais dit, j'avais envie de commencer à doubler en fait mes sorties. Donc je double mes sorties le lundi, enfin quand je sais, quand je peux, quand c'est intuitif de le faire. Et donc lundi passé, j'ai simplement doublé ma sortie en faisant 1 heure en fait de sortie en extérieur. Et ensuite, j'ai fait en fait une séance à la salle sur tapis où vraiment j'ai fait déconnexion du cerveau pendant à peu près 1 heure également. Et super, vraiment très bonne sensation. Donc jusque-là, rien à dire. Alors, comme d'habitude, vous connaissez le principe, le mardi, on fait une séance de spécifique et on rajoute de la force athlétique derrière, donc du renforcement. Alors, vu qu'on est dans ce deuxième bloc, on va expliquer un petit peu, on va rappeler un petit peu ce qu'on avait dit la fois passée. Le deuxième bloc va être vraiment pour préparer le dénivelé positif de la course. C'est-à-dire, on aura 4600 mètres à gravir. Et faut savoir aussi que, par exemple, rien que sur les premiers 8 km, on prend à peu près 1400 mètres de D+. Donc voilà, il faut commencer à doucement préparer le corps, à être capable de grimper autant sans prendre trop cher. Mais ça veut également dire qu'il faut préparer le corps au démoin parce que, en fait, si 8 km de montée, il y a à peu près l'équivalent en descente directement derrière. Et donc, c'est très important de commencer à faire ça. Alors, ce mardi, j'ai vraiment focus la montée, donc le D+, et travailler beaucoup moins le démoin. Donc, démoin, c'était plus repos. Et le D+, vraiment à VO2 max, histoire d'en fait travailler cette économie de course et de demander au corps cette adaptation qui est de, pour grimper rapidement, faut être un petit peu plus dynamique et avoir un peu plus de force pour grimper en contraction. Donc voilà, on a fait ça mardi. J'ai fait en fait 600 mètres de montée, donc c'était à peu près 6 fois la montée pour ceux qui connaissent le Tienobisch à la Citadelle. Plus la montée jusqu'au panorama, ça fait à peu près une centaine de mètres. Sur 600 mètres, si je dis pas de bêtises, 650 mètres. Donc le dénivelé, le ratio des plus, c'est quand même déjà pas mal pour la région. Donc voilà, ça l'a fait. Rien à signaler à ce niveau-là. Il faisait très très chaud. Donc en plus de ça, acclimatation à la chaleur. Enfin bref, on a pris la totale. Et le soir, renforcement musculaire. Alors là, on était sur la troisième semaine du programme que je suis pour ma force. Et donc, en fait, j'ai fait du 5-3-1, c'est-à-dire que je vais faire une série de 5 reps, une série de 3 reps et une série de 1 rep. J'ai pris 100 kilos pour mes 5 reps, 110 kilos pour mes 3 reps et 115 kilos pour ma 1 rep, sachant que 120 kilos est mon maximum à 1 rep. Et en fait, je l'ai senti très très bien, elle est montée très très fort, donc ça veut dire qu'il y a un gain de force qui a été réalisé au cours de ces derniers cycles, et ça fait plaisir. J'ai hâte de voir le prochain cycle parce qu'à mon avis, je vais pouvoir remonter encore un peu plus et voir peut-être même prendre un nouveau PR. Donc ça c'est vraiment cool. Alors par contre, au niveau, j'ai quand même fait du bench avec le peu de temps que j'avais. Le bench, c'est toujours un peu fébrile. C'est-à-dire que, bah, même principe, j'ai fait 5-3-1. 75 kilos, 80 kilos, j'ai fait 2 reps au lieu de 3 et 82,5, voilà, elle est passée, mais c'était un peu grind. Il y a quand même de l'amélioration si je regarde les courbes, parce que ben, 5 reps à 75, il y a un moment, c'était pas du tout pensable, et on était à 65, donc à ce niveau-là, il y a beaucoup d'amélioration, mais je sens encore que, en fait, ben, mon père à 90 kilos, vraiment, c'est pas, il n'est pas encore explosable, quoi. Donc ça, on va essayer de travailler un peu plus. Et voilà, pour le bain du Vietnam. Alors, mercredi, là, bah, pareil, j'ai essayé de doubler ma sortie. Alors là, c'est un peu différent parce que bah, j'ai fait une sortie un peu focus des plus, mais vraiment allure zone 1. Donc j'ai fait à peu près 14 km, je pense, avec à peu près 200 mètres de D+. Et le soir, petite sortie de 45 minutes avec un pote, où là vraiment c'était en mode zone 1 très relax, vraiment juste mettre du volume, accumuler des bornes et sans souci. Alors d'habitude je prends mon jour de repos le vendredi, mais en fait cette fois-ci je l'ai pris le jeudi. Alors pourquoi? Parce que en fait vendredi on avait décidé d'aller faire un trail, donc d'aller faire une course avec Lio, un pote à moi. Et donc en fait, vu que c'était le 21 juillet, voilà, c'était un jour férié ici en Belgique, donc on a été faire le trail des Croix de Banneux, qui est du côté de Liège, enfin c'est même Spa, ouais, c'est Spa Chaudfontaine. Et c'était, en fait à la base je devais faire 35, lui devait faire 23, finalement on s'est vu, on s'est un peu chauffé, on s'est dit ok on va faire 29 à 2. Donc on a bien couru, c'était vraiment cool, c'était à peu près, enfin c'était 29,5 et il y avait à peu près 950 mètres de D+. Donc c'était vraiment un chouette trail, alors c'était très familial, il y avait très peu de coureurs, il y avait très peu de monde. Voilà, c'était à côté d'une enfin, c'était une buvette de foot perdue au milieu d'une part, c'était vraiment... Le trail à l'ancienne, sur les ravitaux, il y avait juste de l'eau et des chips, pour vous dire, et des knick-knacks. Donc voilà, c'était très à l'ancienne, mais du coup, c'était cool, c'était sans prise de tête, en fait. C'était vraiment, voilà, on est là pour courir, et donc vraiment, c'était cool, super bon moment. Et rien à dire de plus, voilà, je trouve cette course, ça avait un charme de malade, et ça m'a fait trop plaisir de le faire avec lui. Du coup, bah, samedi, ce qu'on a fait, enfin ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti en mode récup, donc je suis retourné faire de la zone 1. J'ai quand même fait un petit peu de dénivelé positif pour essayer d'en remettre en fait sur ma semaine. En fait, j'ai monté 3 fois la Cita et voilà, je me suis dit pas de prise de tête et focus sur une descente plus longue. Donc en fait, j'ai monté la côte la plus raide pour monter la Citadelle et descendu la côte la moins raide, mais la plus longue du coup pour travailler un peu la descente, mais de manière un peu relaxe. Et dimanche, alors là, ben en fait, j'étais en mode complétion de volume, c'est-à-dire que la semaine passée, j'avais fait 100 km. Cette semaine-ci, je visais donc une augmentation de 10%. On a déjà parlé, il faut être progressif en fait dans le volume. Je voulais faire une semaine à 110 km. Et donc, il fallait que je fasse en fait une sortie entre 10 et 15, voilà, pour rester dans ces 10%, mais pas exagérer non plus. Et voilà, préparation du podcast, manque de temps, etc. Je vous avoue, je me suis un peu pris au dernier moment, j'ai pris la douche. Donc, je suis parti, j'ai fait 10 km tranquillement, montée de la Citadelle, un classique, on connaît. Et ça me totalise un volume de 110 km, donc à peu près 11h20 d'entraînement, rien que de course cette semaine-ci. Et un seul entraînement de force parce que bah justement le jeudi j'ai pris mon jour de repos complet Et je ne l'ai pas en fait mis un autre jour, donc je me suis dit voilà, c'est comme ça, c'est un choix, et on va essayer de rattraper ça cette semaine-ci. Donc globalement, je suis très satisfait de ces 2 semaines en fait du bloc 2, où on a vraiment une grosse augmentation du volume qui a été faite, le corps tient très bien, et un des trucs que j'ai remarqué, en fait, en monitorant un peu toutes mes stats, etc., c'est que ma variabilité de fréquence cardiaque, donc mon HRV, a eu une tendance à augmenter très très fort ces 4 dernières semaines. Et ça, c'est juste incroyable. Alors, pourquoi c'est bien d'avoir un HRV qui tend vers le haut, ou en tout cas qui reste stable à une certaine baseline? Parce qu'en fait, le HRV, donc la variabilité de fréquence cardiaque, c'est un bon indicateur de la récupération de votre système nerveux. Plus votre HRV est haut, plus vous êtes en fait nickel au niveau, enfin pour vulgariser, en gros, votre système nerveux, votre système sympathique récupère extrêmement bien de ce que vous lui donnez comme stress. Si votre variabilité de fréquence cardiaque est faible, donc c'est-à-dire que le temps entre deux battements est bas, donc on calcule ça en millisecondes, là ça veut dire qu'en fait votre corps il récupère pas forcément bien et que peut-être vous poussez trop. Alors, l'analyse de ça, chez moi en tout cas pour ces derniers temps, ce que j'ai remarqué c'est que j'ai une forte diminution de mon stress mécanique sur les jogs faciles. C'est-à-dire que les jogs que je considère faciles, donc les sorties zone 1, comme j'appelle ça, parfois je les courais un peu plus en zone 2 qu'en zone 1. C'est-à-dire que, en fait, même quand j'étais fatigué, je me mettais une allure en tête et j'avais un peu des chiffres en tête, etc. Faut savoir que vu que je fais pas mal de renforcement et pas mal de force, le système nerveux prend beaucoup plus cher et donc voilà, il y a un impact, il y a un stress mécanique qui est encore plus important. Et le fait de diminuer en fait ce stress mécanique sur les jogs faciles, parce que en fait ces jogs sont censés être vraiment très faciles, ça joue déjà énormément sur ma récupération. Alors, suite à ça, est-ce que c'est une cause à effet? Je n'en sais rien, mais en tout cas j'ai eu un meilleur sommeil, donc j'ai une meilleure qualité de sommeil globalement. Ce qui veut dire meilleur sommeil veut dire également meilleure récupération. Et alors aussi, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que j'avais une meilleure gestion de mes niveaux de stress. Donc de manière générale, j'avais beaucoup moins de stress dans ma vie, ou dès que j'avais des situations stressantes, j'avais beaucoup plus facile à déconnecter, sans doute parce que j'avais un meilleur sommeil, et sans doute lié à cette diminution du stress mécanique sur les jogs faciles. Alors, nutrition, pendant tout un temps, en fait, j'ai été en prise de masse début de l'année. Et j'ai commencé à cut vers le mois de mai, enfin début juin. J'ai commencé à faire en fait une petite sèche pour essayer d'éliminer un peu les kilos en trop que j'avais pris. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que mes niveaux d'énergie, avec mon taux d'entraînement qui augmentait, ça allait pas. Donc en fait, j'ai arrêté la sèche et je me suis mis en maintenance. Je me suis dit, dans tous les cas, si je veux perdre du gras, avec ce que je brûle comme calories, je finirai par brûler ce gras, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut impérativement que je mange beaucoup plus pour avoir une meilleure récupération et en tout cas manger à ma faim. Alors, au niveau de la qualité de l'alimentation en elle-même, voilà, je vous avoue que je ne suis pas le mec qui ait la meilleure nutrition du monde, mais j'essaie quand même d'au moins avoir mes taux de protéines en fonction de mes besoins. J'essaie également d'augmenter mes glucides en fonction de mes besoins et surtout les bons glucides, pas n'importe quoi. Mais voilà, je me refuse rien, voilà, je sais que de toute façon je brûle énormément de calories. Si on prend rien que la semaine passée, je suis à 8000, un peu plus de 8000 kilocalories de brûlé. Donc tout en sachant qu'il faut à peu près 7200 kilocalories pour moi pour brûler 1 kilo de gras. Donc voilà, je pense que le travail est fait. Donc voilà, ça pour moi c'est super cool. C'est un très bon indicateur que tout se passe bien. Alors, le seul truc que je dois vraiment monitorer, c'est en fait donc continuer à monitorer mon stress mécanique, c'est-à-dire si je ressens des douleurs, si je ressens des faiblesses musculaires ou une difficulté à récupérer. Là, voilà, il faut que je sois un peu adaptif dans mon plan, mais jusqu'à présent, je respecte absolument ce principe de progression. J'essaye de ne pas mettre trop de charge quand je ne dois pas en mettre et je focus à mort sur ma qualité de vie. Donc là, pour l'instant, rien à dire, rien à déclarer. On est vraiment nickel.
This morning, I discussed the idea of the self as the basis of the universe.
La pensée pour moi-même cette semaine, on va prendre une citation de Sénèque qui dit: parfois même vivre est un acte de courage. Alors, je vais juste donner le contexte en fait de cette citation. C'est que en fait, à un moment donné, Sénèque, il était tellement malade qu'il a envisagé de se suicider pour échapper à la douleur. Mais en fait, il a pensé ensuite à son père qui ne pourrait pas supporter sa mort. Et il a donc choisi de continuer à vivre et a fini par vaincre sa maladie. Sénèque, au final, il constate donc que dans certaines circonstances qui sont vraiment horribles, le fait de trouver la force d'aller jusqu'au lendemain, c'est un acte de courage. En fait, c'est faire preuve de persévérance dans des moments difficiles. Et là-dedans, ce que je vois, c'est trouver quelque chose qui nous raccroche et qui nous donne envie de continuer. Alors parfois c'est des proches, parfois c'est un objectif, parfois c'est un amour. Ce qui est marrant, c'est que en fait, dans chaque religion, il y a une image de la vie égale la souffrance. Donc si vous prenez le christianisme, tout simplement la croix de Jésus, ben, en fait, il porte sa souffrance. Les bouddhistes, eux, ils tergiversent pas, ils le disent directement, la vie, c'est souffrance. Donc voilà. Et en fait, dans notre confort moderne, ben, la souffrance ou la douleur qui peut nous tomber dessus, ça se fait vachement rare, en fait. Et en fait, on en oublie tellement que ça existe, que ça peut nous arriver, qu'on prend tout un petit peu pour acquis. Et parfois, en fait, on se retrouve dans des moments de mal, où on ne sait plus où donner de la tête, où on ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Et en fait, juste une minute par jour, se dire, ok, je continue, ok, je continue. Bah ça peut être vraiment un acte de courage, surtout quand on a l'impression d'être dans les abysses depuis un moment. Donc, moi, ce que je vois, c'est que il faut prendre chaque petit moment comme un petit peu de lumière. Faut trouver la joie, en fait, dans le présent, parce que bah, dans le passé est passé, le passé était, le futur sera, mais il faut rester dans le moment présent. Si on pense tout le temps au futur, on a de l'anxiété. Si on pense tout le temps au passé, on risque d'avoir de la tristesse, des regrets, etc. Donc, il faut rester absolument dans le présent et trouver ces petites choses qui font qu'il y a une petite lumière au bout du tunnel pour votre journée et ça vous donne en fait juste cette force d'aller jusqu'au lendemain. Il faut pas en fait arrêter d'essayer de rendre sa vie meilleure ou juste se dire je souffre, c'est ok. Non, en fait, il faut absolument trouver des moyens d'améliorer son journalier. Il faut trouver des petites astuces, en fait, de se dire, ok, j'ai mes limitations, je sais que ma vie est compliquée. J'ai pas besoin de pousser plus que ce que je ne sais pour l'instant, mais je dois absolument améliorer mon présent, je dois améliorer ma situation, et il n'y a pas de raison que je souffre sans objectif, sans but. Ça, c'est un truc qui est parfois difficile à concevoir quand on est vraiment dans le fond. Je pense que justement, ça fait partie de ce truc où on est tellement dans le fond, on n'arrive pas à se lever le matin, on n'arrive pas à se dire, ok, il faut que je fasse les choses, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. On est là, à quoi bon? Et en fait, le simple fait de sortir, de se donner une opportunité, en fait, de voir la vie en sortant de chez soi, d'aller marcher, etc. Eh ben, vous pouvez avoir une petite lumière dans votre journée, trouver une petite joie dans cette journée qui vous semble si noire, qui fait que, en fait, ok, aujourd'hui, si je fais la somme des choses, il y a eu tout ça, mais j'ai quand même eu ceci. Et Jordan Peterson, dans son premier bouquin, enfin dans son bouquin 12 règles pour une vie, lui, sa règle, sa dernière règle d'ailleurs, c'est caresser un chat lorsque vous en croisez un dans la rue. Et il insiste sur le fait de ne pas laisser passer cette opportunité quand vous l'avez. C'est-à-dire que si vous l'avez et que vous attendez, le chat il va se barrer. Et en fait, ça, c'est valable pour tout. Dès le moment que dans vos journées, dans ces journées qui n'en finissent plus, où vous n'en pouvez plus, vous avez du mal à vous dire, putain, mais il faut encore que je tienne jusqu'à demain, etc. Eh ben, vous pouvez trouver en fait juste une chose sur la journée, une opportunité qui va faire que, ok, ah, ça fait du bien en fait. Genre, quelque part, vous allez déconnecter, ça va être un tout petit truc, mais c'est important de ne jamais les laisser passer ces opportunités-là parce que toutes les petites opportunités mènent toujours à des plus grosses opportunités sur le long terme. Et plus en fait vous saisissez ces chances, plus vous avez de chances d'avoir de plus grosses opportunités et de vraiment de vous sortir de ce trou et de voir la lumière en fait au bout du tunnel. Alors, il dit lui-même, si vous êtes dans le noir, si vous êtes dans les abysses, regardez vraiment au fond du trou et vous allez finir par voir une lumière. Et c'est un espoir à avoir. C'est pas du pessimisme en fait. C'est simplement se dire, il faut que je sois capable de regarder les monstres sous l'escalier, le monstre sous le lit, être capable de voir dans la noirceur que en fait il y a quand même de l'espoir au bout du tunnel. Donc voilà, ça c'était la pensée pour moi-même. J'espère que ça vous a donné un petit peu de clarté, un petit peu de lumière, un petit peu de. Un petit... Une vision un peu différente de comment voir les choses, surtout quand vous avez des mauvaises journées. Donc si vous avez une mauvaise journée aujourd'hui et que vous écoutez tout ce podcast, dès que vous avez l'opportunité, saisissez-la. Que ce soit donner un compliment à quelqu'un, caresser un chat dans la rue, un chien dans la rue, peu importe, mais saisissez-la et prenez ce petit moment comme un petit moment de délivrance, un petit moment de bien-être, un petit moment juste pour vous et vous dire ok, ah ça fait du bien. Et puis demain, ben, on verra. C'est prenez une minute à la fois, prenez une heure à la fois, prenez une journée à la fois et demain c'est un autre jour et on continue en fait. Alors dans le pourquoi on fait ça cette semaine-ci, je vais prendre une question qui m'a été posée cette semaine-ci. Donc la question c'est, enfin je vais contextualiser un petit peu la question. La question en fait demande simplement, voilà, j'ai un objectif de course fin de cette année qui est un semi-marathon, mais j'ai pas envie en fait de me prendre la tête sur des programmes d'entraînement, etc., etc. J'ai envie que ce soit spontané et avec envie. Et est-ce que c'est possible? Alors, moi, de mon expérience personnelle, je pense que c'est possible. Est-ce que c'est la meilleure des choses à faire? J'en suis pas certain. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, courir à l'envie, ça c'est pour moi c'est essentiel. Je suis absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire que on a besoin en fait de se dépenser. On voit souvent la course à pied aussi un peu comme un défouloir. Donc on va sortir, on va aller faire 5-10 km, on va taper dedans, on va être vraiment au seuil tout le long. Et après on va être là, waouh, trop bien. Ok, jusque-là, on s'entend tous. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est vraiment un échappatoire et c'est ok. Dès le moment, en fait, que vous décidez de vous mettre un objectif de course, il faut comprendre que votre corps doit être capable d'emmagasiner une certaine charge et que votre corps doit être capable, en fait, de simplement courir cette distance. Ce que ça veut dire, c'est que vous n'allez pas vous réveiller du jour au lendemain sans avoir rien fait, à courir 20 km, sans, ou 21 km, un semi-marathon, sans vous dire je ne vais pas avoir de casse. Alors, il y a peut-être des dieux parmi vous, j'en sais rien, mais ça, pour moi, c'est physiquement impossible. L'impact de la course à pied, c'est un des sports qui a le plus d'impact sur tout ce qui est musculo-squelettique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de blessures chez les coureurs débutants, parce que les coureurs débutants, je le répète, je l'ai déjà dit précédemment, les coureurs débutants ont tendance à en faire trop, trop vite, trop longtemps, alors qu'ils en ont fait trop peu pendant trop longtemps. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire si vous avez un objectif fin de cette année, mais que vous n'avez pas envie de vous coltiner un plan d'entraînement? Moi, ce que je recommande personnellement, ce que je vois qui fonctionne, c'est en fait d'avoir une augmentation de votre volume qui est progressive par semaine. Faites pas les idiots, vous n'êtes pas obligé d'aller faire des séances spécifiques, vous n'êtes pas obligé de vous tuer à la tâche. Je pense que, et la science, en tout cas la clinique du coureur et d'autres experts comprennent bien cette question, il est meilleur d'aller courir entre 30 et 45 minutes tous les jours que d'aller courir 1 heure et demie un jour et 1 heure l'autre jour sur votre semaine. Alors déjà, ça peut paraître débile, mais c'est pas si chronophage que ça. C'est-à-dire que en fait, 30 minutes, 45 minutes sur votre journée, c'est pas si chronophage que ça. C'est un épisode Netflix en moins le soir, donc c'est pas si chronophage que ça. Vous allez avoir une meilleure récupération sur des sorties qui sont plus courtes, c'est tout à fait logique, vous mettez moins de stress sur votre organisme, donc vous allez avoir une récupération qui est plus rapide et avoir des jambes plus fraîches le lendemain, ce qui vous permet en fait de recommencer. Donc voilà, moi ce que je vous recommande, c'est augmenter votre volume de manière progressive. Alors qu'est-ce que ça veut dire augmenter son volume? Ça veut dire, imaginons qu'actuellement vous courez 20 à 30 km par semaine. Vous pouvez courir, parce que voilà, 20 à 30 km par semaine, c'est quand même relativement faible, vous pouvez courir entre 10 et 30% de plus la semaine après. Une fois que vous arrivez vers les 50-60 km, maintenez simplement une progression de 10% maximum par semaine. Moi, je vous recommande de faire ça comme ça. Imaginons que vous courez 50 km par semaine, la semaine après, vous courez 55, la semaine après, vous courez 60. La semaine après, vous courez 66 environ. Et la quatrième semaine, vous faites un déload, donc une décharge. Vous laissez une semaine le temps à votre corps d'assimiler l'entraînement. Donc en fait, vous prenez votre dernière semaine, vous faites 80%, grosso modo, et vous déchargez. Et surtout, vous ne changez pas en fait l'intensité, mais vous changez le volume. C'est-à-dire que si vous avez une séance qui est spécifique dans le tas, donc si vous faites des intervalles, etc., vous allez juste faire moins de répétitions, mais garder l'intensité. Là, vous faites juste du volume. Donc voilà, si vous voulez avoir un objectif qui est en fait de simplement finir une course qui est de 21 km, si vous pensez à un marathon, faites un plan d'entraînement, je vous en supplie. Faites-vous coacher, prenez Decathlon Training, peu importe, mais prenez un plan d'entraînement. On ne peut pas faire un marathon en faisant du jogging hobby. C'est très dangereux. Un marathon, c'est une préparation. Il y a un impact cardiovasculaire qui est très important. Il y a un impact musculo-squelettique qui est très important. On ne fait pas un marathon du jour au lendemain sans une préparation physique qui va avec. Jusque-là, tout va bien. Un semi-marathon, c'est vraiment la limite que je donne parce que voilà, on voit tous ces gens qui participent aux 20 km de Bruxelles qui n'ont absolument aucune préparation, qui vont en fait se démonter les jambes. Moi, je ne le recommande absolument pas, je ne le recommanderai jamais. Je dis toujours, faites au moins 16 semaines de prep pour un semi, mais par pitié, n'y allez pas en vous disant, j'ai couru 2 fois 10 km sur ma vie, je peux faire 20 km parce que vous allez le regretter. Et c'est pas une bonne image de la course à pied non plus. Donc voilà, faites du progressif, faites-vous plaisir. Moi, ce que je peux vous donner comme astuce, c'est si vous voulez en fait faire du volume et augmenter votre volume, prenez en fait simplement votre volume que vous devez atteindre sur la semaine, répartissez la charge sur les 7 jours. N'allez pas faire évidemment une séance de 2 heures et puis que des séances de 30 minutes. C'est pas très productif. Essayez de quand même être raisonnable et d'être intelligent dans la programmation. C'est-à-dire que des longues sorties de 2 heures, pour vous, ça va pas avoir de logique. Si votre but, c'est de faire un semi, c'est pas logique. On vous le demandera pas de courir une distance qui est proche du semi avant de faire votre semi, surtout si vous en avez jamais fait. Donc voilà, essayez de tenir des sorties qui sont de 30 à 45 minutes la semaine. Et si le week-end vous avez un peu plus de temps, essayez d'étendre 1 heure, 1 heure et demie maximum. Donc commencez à 1 heure et puis ensuite graduellement chaque semaine vous augmentez. Mais voilà, vous prenez votre volume hebdomadaire, vous le divisez sur la semaine, vous le planifiez, vous dites ok, tel jour je vais faire ça, tel jour je vais faire ça, tel jour je vais faire ça. Comme ça vous savez ce que vous avez à faire, c'est facile, il n'y a plus besoin d'y réfléchir et le jour J vous faites votre entraînement et c'est un plaisir et il n'y a pas besoin de se prendre la tête, tout simplement. Donc voilà, moi ça c'est ce que je vous conseille de faire, c'est augmenter votre volume. Vous aurez beaucoup plus de bénéfices à faire de l'augmentation de volume à faible intensité en rajoutant peut-être une séance de spécifique, donc c'est-à-dire faire des intervalles ou ce genre de choses, VO2 max, sur votre semaine que de taper dedans tous les 2 jours où en fait vous n'allez juste pas performer, vous n'allez pas avoir un gain. Vous avez des risques de blessures qui sont accrus, donc c'est pas du tout l'idéal. Il faut être très progressif, il faut prendre ça avec une approche santé parce que en fait, l'effet composé de ne pas s'entraîner, c'est vraiment bien pire que l'effet composé de s'entraîner mais avec une intensité plus faible. Ce qu'on veut avec une approche santé, avec dans la course à pied, c'est courir le plus longtemps possible dans sa vie. Et pouvoir le faire sans douleur et pouvoir le faire raisonnablement. Donc voilà, moi je vous recommande ça. Faites du volume, vous allez avoir des bénéfices cardiovasculaires qui sont énormes. Plus vous, alors je sais que c'est paradoxal, on a déjà discuté, mais pour courir plus vite, il faut courir plus lentement parce que plus vous faites du volume, plus vous devenez efficace à utiliser l'énergie, plus vous avez une meilleure économie de course, plus, etc. Donc c'est très paradoxal de l'entendre, mais je vous assure que c'est vrai. Il suffit de regarder, si vous voulez, vous prenez mon Strava, vous regardez l'évolution que j'ai depuis 2018. C'est uniquement parce que j'ai fait du volume à faible intensité et j'ai augmenté mon volume de manière hebdomadaire au cours de ces années. Ce n'est pas parce que j'ai décidé de taper dedans tous les 2 jours. Donc voilà, moi ça c'est mon conseil. Maintenant, vous êtes humain, vous allez faire vos erreurs. Je pense qu'on a tous fait des erreurs, on a tous été un petit peu débiles quand on a commencé une pratique d'un sport, que ce soit la salle, etc. Donc vous ferez sans doute des erreurs, mais laissez votre ego de côté. Ne comparez pas vos stats Strava avec, avec vos potes. Alors je sais que c'est tentant, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, je sais qu'il y a des petites remarques qui se perdent, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien écrire hashtag blablarun dans leur description parce qu'ils ont été courir avec un pote qui court moins vite qu'eux, etc., etc. pour justifier leur moyenne. Ne faites pas comme ces gens-là. Faites du volume, faites ça tranquillement, soyez intelligent, soyez plus intelligent que les autres. Et faites le taf et je vous assure que sur le long terme, vous allez voir vraiment une augmentation de vos performances très très rapidement. Parfois, c'est un peu naze d'aller courir très lentement, je vous l'avoue, mais c'est aussi en fait juste être dehors, juste prendre l'air, juste être avec la nature si vous faites du trail. Et c'est juste ça qu'on demande en fait. C'est juste se reconnecter un peu à la nature après le boulot, avant le boulot, peu importe quand c'est ce que vous décidez de le faire. Mais ça vous permet juste en fait de lâcher prise pendant 1 heure et ça fait un bien fou. Donc respectez en fait l'aspect santé, l'aspect sport santé. Faites-vous du bien, poussez-vous, challengez-vous, mais faites-le toujours de manière progressive pour pas vous blesser parce que si vous vous blessez, eh ben en fait grande chance est que votre médecin va vous dire de prendre un arrêt de 2 semaines, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut pas toujours prendre un arrêt, même sur des tendinites, etc. Mais il faut être intelligent. Voilà. Moi, je préconise toujours le progressif plutôt que de faire du qualité et d'être excellent pendant 2 semaines. Je préfère être constamment bon pendant des années. Voilà. Donc ça, c'est la fin de cette rubrique et c'est la fin de cet épisode 23. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi sur Instagram, en commentaire, ou laissez-moi une review sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer. N'hésitez pas à follow si vous découvrez ce podcast. N'hésitez pas également à aller follow ma page Instagram FloCTK ou la Prépa Podcast sur Facebook. Et quant à moi, je vous dis eh ben, à la prochaine pour un nouvel épisode où on va parler un peu plus du spécifique que je vais entamer vraiment pour cet aspect montagne et comment je vois un petit peu la programmation pour la suite des choses. Donc je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite d'excellents entraînements. Je vous souhaite d'excellents grinds dans vos projets. Si vous êtes en vacances, que vous écoutez ce podcast pour vous relaxer, profitez à fond. Essayez quand même de sortir marcher un peu, histoire de ne pas laisser tout au repos. Et je vous dis ciao!